CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et avec moi Sylvain Bersinger, économiste et auteur de livres sur l'entrepreneuriat. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
J'espère que tu vas bien.
Très bien.
Alors aujourd'hui, on parle d'une des plus grandes réussites à la française puisque nous présentons le parcours d'Eugène Schüller, jeune chimiste, qui a créé l'entreprise L'Oréal. Il est évidemment inutile de présenter cette société, mais l'histoire de son fondateur est passionnante. Alors Sylvain, on y va, parce que tu le vaux bien.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Tout commence en 1881 dans l'arrière-boutique d'une boulangerie-pâtisserie dans le 6e arrondissement de Paris.
Oui, en effet, donc Eugène Schüller est né en 1881 à Paris, donc ses parents sont boulangers et d'origine alsacienne. Donc ils ont quitté l'Alsace en 1870 après la défaite contre l'Allemagne et le rattachement donc, de l'Alsace à l'Allemagne. Ils ne voulaient pas devenir allemands, donc ils sont venus s'installer à Paris, où ils ont ouvert donc, une boulangerie-pâtisserie. Donc le jeune Schüller, c'est un élève studieux, travailleur. C'est une famille assez traditionnaliste, où on met en avant le travail, la réussite sociale,
le mérite,
la rigueur, etc. Et donc, enfant, on peut dire que Eugène Schüller va assez bien dans cette direction. C'est un élève studieux. En dehors de l'école, il travaille donc dans la boulangerie familiale. Il aide sur son temps libre. Et il se destine notamment aux sciences.
Il se passionne pour les sciences.
Oui, il a vraiment un penchant scientifique. Et ce qui l'amène à rentrer en 1900 à l'Institut de chimie appliquée de Paris, dont il sort major 4 ans plus tard, en 1904.
Donc ça devient un chimiste et ça lui permet de travailler avec des bons chimistes.
Voilà.
En étant major de promotion, évidemment, c'est plus simple.
Voilà, donc il est à la Sorbonne, donc jeune, on va dire, chercheur, aujourd'hui on dirait peut-être thésard, donc jeune chimiste. Et il travaille notamment avec un chimiste à l'époque réputé, Victor Roger, qu'aujourd'hui on a un peu oublié, mais qui était à l'époque une des sommités.
Alors là, peut-être qu'il y a des chimistes qui écoutent en ce moment,
voilà.
Qui disent, on n'a pas oublié Victor Roger.
Voilà, peut-être que les chimistes n'ont pas oublié, mais nous qui ne sommes pas chimistes, on a un peu oublié. Et donc c'est par ce mentor qui va indirectement avoir l'idée de fonder L'Oréal.
Oui, parce qu'encore une fois, c'est un événement inattendu qui va se mettre sur son chemin.
Oui, alors totalement inattendu. Donc l'histoire est la suivante, c'est un coiffeur parisien qui faisait des teintures donc, pour femmes, et les teintures de l'époque ne marchaient pas très bien. Et donc il se dit, bon ben, c'est un problème de chimie, je vais aller voir un chimiste. Et donc spontanément...
C'est ce qui est intelligent quand même de faire
oui,
ça.
Oui, c'est ce qui était une bonne démarche de la part de ce coiffeur. Et donc ce coiffeur, dont d'ailleurs le nom est totalement tombé dans l'oubli, je ne sais même pas si on se rappelle encore qui c'était.
Là encore, les coiffeurs de ce...
Voilà, peut-être les coiffeurs le savent, mais enfin non, on ne sait pas. Donc va trouver donc, Victor Roger, le grand chimiste à la Sorbonne, et lui expose son problème. Et donc, monsieur Auger n'avait pas spécialement de temps à consacrer à ce coiffeur, mais il se dit, enfin, pourquoi pas? Et il demande à ses élèves qui étaient autour de lui, qui disent, ben voilà, j'ai ce problème de chimie qu'on m'a soumis, qui veut essayer de s'y pencher sur son temps libre. Hein, c'est pas du tout un travail à plein temps, c'est vraiment comme ça un petit défi intellectuel qui est lancé. Et donc, évidemment, le jeune chimiste Eugène Schüller va dire banco, va essayer de relever le défi et de trouver une teinture plus adaptée pour ce coiffeur. Donc il se penche sur la question de la coloration des cheveux de manière, il faut le dire, totalement inattendue. Alors il va en fait totalement réussir. Il va trouver une nouvelle méthode. Donc il va pas donner le secret de fabrication à ce coiffeur. Il va déposer un brevet et à partir de cette coloration, il va fonder son entreprise.
Et oui, donc du coup, il va démissionner, il se lance, il a la bonne idée, il veut lancer son entreprise.
Oui, donc il a réussi à économiser un petit peu d'argent, donc il a un brevet, un premier brevet sur cette nouvelle teinture qu'il a déposée en 1907.
Ah oui, donc il a pensé à le breveter, donc il savait que ça allait être une grande innovation.
Oui, il avait probablement une petite idée derrière la tête déjà, il est convaincu d'avoir trouvé... Un produit vraiment meilleur que ce qui existait sur le marché. Et l'avenir va lui donner raison, d'ailleurs. Et donc, en 1908, il démissionne pour vendre cette nouvelle teinture qu'il appelle L'Oréal. Donc, L'Oréal, ça vient du nom d'une coiffure en vogue à l'époque, mais ça s'écrit AU, avec un E à la fin.
Ah oui, c'est pas comme le nom qu'on connaît.
C'est pas encore... En fait, le nom, bien sûr, L'Oréal vient de là, mais l'orthographe était un petit peu différente. Et donc en 1908, il crée donc sa société de production et de vente de teinture pour cheveux, donc basée sur cette nouvelle teinture L'Oréal. Et donc les débuts sont assez modestes, hein. Il est avec sa femme dans son petit appartement parisien, donc l'appartement sert à la fois de bureau, de laboratoire, d'entrepôt, d'atelier de production, etc. Et il commence à démarcher des coiffeurs aux quatre coins de Paris pour leur proposer L'Oréal.
Mais il n'a pas beaucoup d'argent, et donc du coup c'est dur de s'en sortir.
Oui, donc les débuts sont assez modestes, hein, c'est vraiment du petit artisanat, donc ça met un peu de temps à prendre. Ce qui va aider le décollage de l'entreprise, c'est un an plus tard, il va s'associer avec un comptable qui lui va apporter un peu d'argent dans l'entreprise, et donc là, l'entreprise peut commencer à quitter l'appartement des débuts et avoir vraiment des ateliers de production qui permettent de diminuer les coûts, avoir des équipes commerciales, etc. Et là, ça, par contre, ça va marcher assez rapidement, assez fort, puisqu'il a, cette teinture est visiblement nettement meilleure que ce qui existait sur le marché.
Et puis elle est moins toxique.
Elle est moins toxique. Les autres teintures utilisaient souvent du plomb, ce qui posait des problèmes, bien sûr, sur la santé des dames qui se faisaient coiffer. Et donc, c'est vraiment un produit de meilleure qualité. Et donc, à partir du moment où il a plus de fonds pour développer son entreprise, là, le développement va être assez rapide. Alors, bien sûr, interrompu momentanément par la Première Guerre.
Évidemment, encore une fois, Première Guerre mondiale. Et donc, du coup, lui, il est appelé à la guerre.
Voilà, donc il est agent de liaison pendant la guerre. Et c'est sa femme qui pendant 4 ans, comme dans d'ailleurs beaucoup d'entreprises françaises, va continuer le développement de L'Oréal, alors qu'il est ralenti, hein, puisque bien sûr, pendant la guerre, le PIB français s'effondre de 25% en 4 ans. Donc on imagine que les dames n'avaient pas forcément beaucoup de moyens pour aller chez le coiffeur. C'était pas une période très porteuse pour ce genre de produit. Mais enfin, l'entreprise survit, dirigée par Madame Schuller.
Et les années qui suivent, donc les années 1920, vont asseoir un peu le succès de L'Oréal.
Oui, les années 20 marquent vraiment le développement très fort de L'Oréal et on va dire sa domination sur le marché de la teinture des cheveux. Et la période s'y prête très bien, puisque c'est une période où il y a une émancipation des femmes. C'est la période de Coco Chanel, de La Garçonne, hein, ce roman de Victor Marguerite.
C'est les années folles.
C'est les années folles, voilà, c'est les années folles, où les femmes ont souvent les cheveux courts et teintés. Et donc pour L'Oréal, évidemment, c'est un supermarché. Voilà. C'est une super période. Et en plus, L'Oréal continue d'innover. Par exemple, en 1929, il y a une nouvelle teinture qui s'appelle Immedia, qui est plus rapide, qui est de meilleure qualité et qui va encore faciliter le développement de l'entreprise.
Et c'est aussi le moment où L'Oréal pense à se diversifier.
Oui, en effet, jusqu'à présent, L'Oréal ne faisait que des teintures capillaires. Et à la fin des années 20, elle va se diversifier, notamment dans l'hygiène corporelle, avec le rachat de Mon Savon et le développement d'un savon au lait qui avait pour ambition, pour objectif, d'inciter les paysans à plus se laver, plus utiliser de savon, avec l'idée, c'est un produit qui utilise du lait, donc c'est naturel, etc. Puisqu'il faut bien avoir en tête qu'à l'époque, l'hygiène corporelle des Français, on va dire, laissait un petit peu à désirer. Et donc L'Oréal et Jeanne Schuller ont senti qu'il y avait un marché à prendre à ce niveau-là.
Et justement, ils se servent des innovations que amène aussi Eugène Schuller en communication pour faire découvrir ces nouveaux produits.
Oui, Eugène Schuller, donc c'est un inventeur dans la chimie, dans les produits, mais aussi dans la manière de les vendre. Donc c'est par exemple lui qui a popularisé l'habitude d'utiliser des chansons comme slogan publicitaire, puisque avec une rime, du coup, on retient beaucoup mieux ce qui est rimé.
On maintient l'air dans la tête.
Voilà, on a l'air dans la tête. Et il a aussi innové dans la manière de communiquer, notamment auprès des coiffeurs, puisqu'en fait, les coiffeurs sont ses principaux clients et prescripteurs. Et donc, il a créé des journaux, des magazines, soit des magazines professionnels à destination des coiffeurs, donc bien sûr pour y faire aussi la promotion de ses produits, mais aussi des magazines féminins à destination des clientes qui sont chez le coiffeur, qui attendent ou qui sont en train de se faire coiffer, pour qu'elles aient un magazine à lire. Et donc, grâce en fait à ce développement, on peut dire dans la presse, il va pouvoir là aussi faire la promotion de ses produits.
Et il continue à avoir du flair en se disant que l'hygiène allait devenir de plus en plus importante, notamment l'hygiène au niveau des cheveux.
Oui, donc L'Oréal innove aussi dans les shampoings. Donc en 1934, l'entreprise crée Dopal, alors qui existe toujours, mais maintenant c'est juste Dope. Le nom a été raccourci. Et au début, la stratégie, c'était plutôt de cibler les enfants. Mm-hmm. Et donc notamment, le format du shampoing Dope a été un berlingot. Donc comme un peu ces petites friandises, donc en se disant, en présentant en fait son produit presque comme une friandise pour les enfants, pour les inciter à plus se laver les cheveux, ou en tout cas à pas faire d'histoire quand leurs parents leur disaient d'aller se laver les cheveux.
Et la fin des années 30, c'est sur un nouveau secteur que va se lancer L'Oréal, à savoir le bronzage.
Oui, donc il faut savoir qu'avant les années 30, le bronzage était mal vu des classes aisées, puisque les gens qui étaient bronzés, c'était soit les mineurs au fond de leur mine qui avaient plein de charbon sur la peau, soit les paysans qui travaillaient dans les champs.
C'est fou ça.
Donc les riches, pour faire simple, faisaient attention et gardaient la peau bien blanche. Mais en fait, les choses changent, puisqu'il y a dans l'entre-deux-guerres le développement des vacances, du tourisme, et que désormais, les gens qui ont la peau bronzée, c'est les gens qui ont les moyens d'aller en vacances à la mer ou au ski. Et donc, le bronzage devient en fait un signe, on va dire, de richesse ou de prospérité. Et donc, L'Oréal et Eugène Schueller sentent ce changement. Et donc, en 1936, hein, c'est pas anodin puisque c'est les congés payés, 1936, L'Oréal lance Ambre Solaire, donc une des premières crèmes solaires du marché.
Qui existe encore.
Qui existe encore, voilà. L'Oréal est encore un des leaders sur le marché de la crème solaire. Un des précurseurs et leaders.
Et ça, c'était pour permettre aux gens de pouvoir bronzer un peu en toute tranquillité.
Voilà, avant, il n'y avait pas vraiment de crème solaire. Donc, les gens qui allaient à la mer et qui voulaient bronzer, ils prenaient des coups de soleil, il n'y avait pas vraiment de protection. Et donc, Eugène Schueller, en sentant ce marché et en ayant des idées pour y apporter des innovations, est devenu un des leaders de la crème solaire mondiale.
Sans jeu de mots, une ombre au tableau va arriver rapidement pour L'Oréal avec la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, donc le comportement ou les idées de Eugène Schueller pendant la guerre ne sont pas forcément à son avantage. Donc c'est, on l'a dit, il vient d'une famille assez traditionnaliste. Donc c'est quelqu'un, clairement de droite un peu radicale, qui a, il faut le dire, une certaine sympathie pour les idées nazies, la rigueur, du fascisme, etc., qui va lui poser quelques problèmes à la Libération. Il sera accusé d'avoir collaboré. Mais c'est un personnage probablement assez ambigu aussi, puisqu'il a aussi caché des juifs, caché des réfractaires du STO, des résistants. Ce qui va faire qu'à la fin de la guerre, quand il sera pointé du doigt pour avoir défendu, pour ses opinions de droite radicale, il va pas être poursuivi longtemps. Ses accusations vont assez vite s'essouffler, parce qu'il va y avoir certains résistants, certains juifs qu'il aura cachés, qui vont venir témoigner en sa faveur. Donc il a eu, disons, pendant l'occupation, une attitude un peu ambiguë, disons.
Tu le disais tout à l'heure, il a gardé certains codes de sa jeunesse et de ses parents, et notamment ce code du mérite, et ça se ressent dans son travail. Il se paie pas beaucoup, par exemple, dans son entreprise.
Oui, alors il se paie pas beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend souvent les patrons qui ont des salaires mirobolants de plusieurs centaines de fois le salaire moyen de leurs ouvriers. Lui, dans les années 50, avait un salaire de 3,5 fois le salaire moyen de ses employés. Donc, on peut dire que c'est pas forcément quelqu'un qui est intéressé avant tout par l'argent en tant que tel. Il est intéressé par la réussite de son entreprise, mais pas forcément par la réussite matérielle à l'époque en francs sonnant et trébuchant. Donc c'est un très gros travailleur qui fait tout pour son entreprise. On le surnommait Monsieur 6000 heures. Donc 6000 heures de travail par an, ça fait à peu près 16 heures par jour. Donc
c'est énorme.
C'est énorme. C'est un acharné.
Week-end compris.
Oui, week-end et jours fériés compris. Oui. Donc, il vit pour son entreprise. Quoi. Il ne pense qu'à ça, il veut développer son entreprise, il y consacre absolument toute son énergie.
Et ça paye, puisque après la guerre, notamment, L'Oréal continue de se développer.
Alors, L'Oréal continue de se développer en se positionnant un peu plus sur le marché du luxe. Donc, L'Oréal va progressivement délaisser un peu plus le côté hygiène corporelle, pour se positionner plus sur le secteur du luxe. On pense au rachat de Lancôme, par exemple, qui fait qu'aujourd'hui, L'Oréal, c'est à la fois un groupe de cosmétiques et un groupe de luxe.
Et il continue aussi à beaucoup miser sur la publicité. En 1953, notamment, il a un Oscar de la publicité. Pour lui, c'est important.
Oui, donc il y a effectivement des récompenses dans la publicité qu'on appelle Oscar de la publicité. Et effectivement, à l'époque, il l'a obtenu. C'est un communicant, on l'a déjà dit, très agressif et qui croit beaucoup en la publicité. C'est-à-dire que la publicité est souvent un peu mal vue comme étant soit une nuisance visuelle, soit un coût inutile pour les entreprises. Lui, il voit les choses différemment. Il se dit, si je veux vendre mon entreprise sur une large échelle, il faut qu'il soit connu, donc il faut de la publicité. Et donc la publicité permet de vendre un produit en grande quantité, et la production en grande quantité permet de diminuer les coûts, hein, en faisant ce qu'on appelle des économies d'échelle. Et donc en fait, pour lui, la publicité, même si c'est un coût au début pour l'entreprise, eh ben, ça permet de réduire les prix, puisque ça permet de vendre et de produire en très grande quantité et donc de diminuer très fortement les coûts de production.
Il va continuer à travailler pour L'Oréal jusqu'à son décès.
Voilà, il décède en 1957. Donc à cette époque, c'est François Dalle qui va prendre la direction de l'entreprise, qui va continuer à la diriger. Et L'Oréal va grandir jusqu'à devenir, dans les années 80, le numéro un mondial des cosmétiques, qu'elle est toujours aujourd'hui d'ailleurs.
Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on a complètement oublié le nom de Schuller quand on parle de L'Oréal. On pense plutôt au nom de mariage de sa fille.
Oui, donc le nom qu'on associe à L'Oréal, c'est plutôt Bettencourt, puisque donc Eugène Schuller a eu une fille, donc Liliane, qui s'est mariée à Bettencourt, donc Liliane Bettencourt, qui a été la femme la plus riche du monde pendant de nombreuses années, jusqu'à son décès en 2017. Et donc Liliane Bettencourt a eu elle aussi une fille, Françoise Bettencourt Meyer, du nom de son mari, donc qui a hérité de L'Oréal, et qui est elle aussi actuellement une des femmes les plus riches du monde.
Pour conclure, on peut dire que c'est clairement grâce à la qualité du produit proposé, à son efficacité et aux innovations constantes que la modeste entreprise lancée par ce chimiste deviendra le leader mondial dans son domaine. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Je rappelle qu'on peut redécouvrir d'autres portraits passionnants dans ta série de livres consacrés aux entrepreneurs. Il y en a un nouveau qui vient de sortir justement, on en parlera dans un prochain podcast. Je te retrouve moi pour ma part dans 15 jours sur CDI Podcast ou évidemment sur toutes les plateformes audio pour présenter un nouveau parcours inspirant. À bientôt.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.